Bonjour à tous. On va commencer par lire un passage de l'évangile de Matthieu. Et je vous invite à le lire soit dans vos Bibles, soit à l'écran qui va s'afficher. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, à partir du verset 25 jusqu'au verset 30. Donc, 5 versets. Et je suis certain que bon nombre d'entre vous connaissent au moins un verset par cœur de ce passage-là. Donc, tiens, et si je le faisais lire par quelqu'un? Allez, Elisabeth, une voix forte, audible, claire. 25, Matthieu 11, 25 à 30. Ah, juste un temps qu'on attende que ce soit bien affiché. Vous l'avez? Attends, on va juste... Voilà, c'est bon. Oui. Amen. Je vous avais dit que vous connaissiez au moins un verset. Si je vous je faisais un sondage, je dirais que la plupart d'entre vous, vous savez répéter ce verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce sera le centre de ce temps de partage. Cette semaine, nous avons vécu un moment particulier avec Francine. J'essaye de mettre mon minuteur pour ne pas vous saturer. Évidemment, je ne le trouve pas. Voilà. On va mettre. On a vécu quelque chose d'un peu particulier. On est allé au cinéma. Oui, oui, les pasteurs vont au cinéma. Enfin... Les femmes de pasteurs emmènent leur mari au cinéma parce que dans la concentration et la consécration qui est la leur, bien évidemment, ils sont dans leur bureau enfermés en prière. Non, c'est pas vrai. Pas vrai. On avait décidé d'aller voir un très grand film que je ne citerai pas. Et puis, on est allé passer un bon moment dans un film d'action, etc. Et quand on est sorti, on était encore... Je ne vous dirai pas le titre du film, hein. Mais quand on est sorti et que Tom Cruise avait sauvé le monde, on a poussé la porte, et juste derrière la porte, mais vraiment derrière la porte de la salle de cinéma, il y avait une table avec une dame derrière et une série de livres dessus. Et sur cette table, il y avait plein de livres de témoignages comment... Grâce à mes pouvoirs de médium, vous pourrez parler avec les morts. J'avoue que ça a été une claque. Je suis redescendu de cette séance de cinéma. Tout à coup, en étant confronté derrière la porte de la salle de cinéma à une médium qui était invitée à proposer ses livres. Et surtout, une fois que... Je dirais la journée serait terminée le soir, et eh bien d'avoir une séance de présentation de comment contacter les morts, comment parler aux morts, comment si vous êtes dans la souffrance, dans la séparation, dans le deuil, faire en sorte de pouvoir parler avec les morts et une proposition enfin d'intervention de contacter les morts que vous désirez. J'avoue que j'étais sidéré, et ma femme aussi. Et il y avait une jeune femme qui était derrière la table et qui vendait ces livres-là et présentait ce qui allait être une activité au CGR de l'Anestère, pas un petit cinéma de quartier, pas un cinéma, je dirais, un peu associatif ou autre. Non, non, un grand, grand cinéma. Et là, on était tellement mais scandalisés. Et la jeune femme qui était là, en fait, on a compris qu'elle était là. Était-ce une salariée du cinéma? Peut-être, certainement. Elle tenait le stand et la médium n'était pas là, mais elle expliquait que c'était quand même quelqu'un de tout à fait puissante dans ses capacités à mettre en relation avec les morts. Et nous, on était scandalisés. On s'est dit, mais attendez, comment vous pouvez proposer quelque chose comme cela au grand public de manière si ouverte? puis en même temps, cette jeune femme, c'était pas la médium. Donc, je retenais ma femme par le col pour pas qu'elle l'attaque. Parce qu'elle était, un petit peu... et je me disais en moi-même, et je lui ai dit, mais c'est scandaleux ce que vous faites. Parce que c'est une proposition qui est intrusive, que personne n'a demandé. Et en plus, dans un lieu, on ne s'y attend pas. À un moment, on ne s'y attend pas. Et après, je réfléchissais, je disais, c'est scandaleux pour trois raisons. Soit cette proposition est une proposition qui est vraie, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui a la capacité de parler aux morts et de les faire parler, auquel cas c'est une proposition dangereuse, puisque nous savons, nous, par l'Écriture, c'est notre conviction, mais c'est ce que dit l'Évangile et ce que dit la Bible tout entière, c'est que ce sont les démons qui utilisent ce moyen-là pour attraper et asservir des hommes qui sont enfermés dans leur douleur, dans leur souffrance, dans leur peur. Soit c'est quelque chose de faux, et donc c'est une arnaque, et proposer une arnaque dans un milieu public à des personnes qui ne s'y attendent pas, c'est quelque chose de scandaleux. Et puis la troisième chose, c'est scandaleux parce que cela détourne les hommes et les femmes qui sont dans leur souffrance de la révélation de Christ, de la volonté du Père de sauver et d'attirer à lui les hommes et de leur donner une autre perspective de ce que c'est que la vie et de ce que c'est aussi que la mort et la séparation. Et donc, on a la jeune femme, on sentait qu'elle était là parce qu'elle devait être là. Alors, est-ce que c'était une amie de la médium, une salariée du cinéma? On ne sait pas. Donc, on est allé plus loin. Je tenais toujours ma femme par le col. Et puis là, vous savez, quand on rentre dans les salles, la partie salle, vous avez un placier qui est là, qui vérifie vos tickets. Et comme on passait à côté de lui, et je disais à Francine, mais c'est scandaleux, c'est scandaleux. Et donc, il disait, mais qu'est-ce qui est scandaleux? Parce qu'il disait, peut-être le film, il y a quelque chose qui... Et puis là, Francine, je la tenais bien, mais je n'ai pas pu l'empêcher. Elle a commencé à lui expliquer comment cette proposition spirituelle et dangereuse n'avait pas sa place dans ce lieu-là. Et cet homme-là l'écoutait, il disait « oui, je comprends ». Et puis, il a fini par admettre effectivement que c'était quelque chose qui pouvait être compliqué et difficile à vivre dans cette proposition. Et puis, on est parti, mais ça nous a mis des heures. Même le lendemain, on était encore avec ce choc. Et je me disais, mais j'aurais dû prendre une photo du stand, j'aurais dû, je ne sais pas. Mais on a été tellement choqués, vous savez, quand on est sidéré, à un moment donné, on ne pense pas à ce qu'on devrait faire. Alors, je ne vais pas vous dire que j'ai fait quelque chose de spirituel, non. J'ai simplement pris conscience de comment l'adversaire utilise toutes les portes ouvertes pour attirer les hommes en dehors de la pensée de Dieu et de la relation à Dieu. Et le monde est une proposition permanente de comment vous pouvez vivre sans Dieu. Alors, ça a été une expérience. Et du coup, j'étais avec cette pensée d'intervention ce matin concernant ce passage de l'évangile de Matthieu, avec ce texte qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » C'est un verset que vous connaissez. Tout chrétien, quel que soit son âge en Christ, l'aura au moins entendu une fois dans sa vie. Je pense les prédicateurs aiment parler de ce verset. Et puis pourtant, tout en étant très beau, c'est un verset, je dirais, ou un texte paradoxal. Il m'est arrivé une fois que le fils d'un de mes meilleurs amis, devant se marier, me dit « Jean-Marc, tu peux prêcher à mon mariage, à notre mariage, à moi et à Sabrina. » Elle Sébastien, je l'ai connu tout bébé, puis un mariage, donc je dis « Ok, d'accord. » Et j'ai choisi ce texte-là. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Un jour de mariage, c'est un peu provocateur. Considérer que le mariage et l'alliance soient un joug à porter, ce n'est pas très encourageant. C'est un coup, est-ce que les mariés, au moment où vous leur demandez « Est-ce que tu veux épouser ?» Ben là, maintenant, après la prédication, je me pose la question. Mais ce texte est aussi un texte de promesse et un texte fort qui parle de la relation à Dieu et de la soumission à Christ. Alors moi, j'aimerais bien parler avec vous ce matin de la question du repos dont il est question ici. Parce que si je faisais aussi un sondage sur ceux qui sont fatigués et chargés, je suppose qu'il y en a plusieurs, soit qui le sont, soit qui l'ont été, ou soit qui le seront. Et qui se disent, bah, si quand on est fatigué et chargé, on est avec cette perspective, cette promesse de Christ que nous pouvons aller vers lui et être soulagés, je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui seraient preneurs. Alors, il faut considérer ce texte de Matthieu 11, 28 dans son contexte. Si on veut vraiment comprendre les promesses de Christ, il faut regarder les versets qui précèdent et qui suivent l'évangile de Matthieu au chapitre 11, 28. Par exemple, au chapitre 25, il est dit en ce temps-là, on l'a lu avec Élisabeth, Jésus prend la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue que tel était ton bienveillant dessein. Tout m'a été remis par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et le « et » celui, c'est vous. C'est moi. Ça veut dire que ce texte qui parle de « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », ça s'adresse éventuellement à ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Mais ça s'adresse aussi et surtout à ceux qui ont entendu parler de Christ, qui l'ont accepté dans leur vie et qui sont aussi fatigués et chargés. Alors, quel est le process, la procédure pour pouvoir être libéré de notre fatigue, de nos fardeaux? Alors, il y a trois verbes qui sont dans le verset 28 et 29. C'est « Venez à moi, prenez mon joug, recevez mes inscriptions ». Ça veut dire que quelque part, pour pouvoir vivre cela, il y a des conditions. Alors, on dit « Bah oui, c'est quand même un texte magnifique ». Il commence d'abord par dire que Jésus, qu'il rend grâce à son Père de ce que le Père le connaît, de ce que lui connaît le Père, et que lui, le Fils, se charge de nous révéler qui il est. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'est pas loin. On verra plus tard, on ne peut pas recevoir la révélation de qui est le Fils si ce n'est par l'Esprit-Saint. Alors, tout m'a été remis par mon Père. Je ne sais pas si vous imaginez ceux qui sont là, qui sont présents autour de Jésus, ce qu'ils voient. Ce qu'ils voient, c'est quelqu'un de simple, pas habillé comme un notable, quelqu'un qui est relativement pauvre et qui se trouve dans une situation ordinaire et qui a l'audace de prétendre que tout ce qui se trouve dans l'univers relève de son autorité. C'est quand même osé. Il affirme même que lui seul connaît le Père, Dieu, et que seul Dieu connaît Jésus. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Alors, je ne sais pas si vous voyez là, l'importance de cette parole. Jésus est en train de dire qu'il y a égalité entre le Père et le Fils, entre Dieu et lui. Et je ne sais pas comment l'ont reçu les hommes, les femmes qui étaient là tout autour de lui, mais c'est une parole révolutionnaire. À son époque, et pour tout le judaïsme, seul le souverain sacrificateur rentrait une fois par an dans le lieu très saint pour asperger le coffre de l'alliance avec du sang et de l'hysope, puis rentrer en relation le plus proche possible de Dieu. Et là, tout à coup, vous avez un homme qui dit, moi, je connais le Père me connaît, et moi, je peux vous le faire connaître. Je suis dans un rapport d'égalité avec le Père. Alors, cette relation-là, elle nous est révélée par le Christ, et je me demande parfois ce qui peut inciter un chrétien à acquérir la ferme conviction que Jésus est Dieu. C'est cela notre foi. On fête le 1700e anniversaire du Concile de Nicée qui proclame que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. 1700 ans. Je ne sais pas si dans 1700 ans, on va fêter et célébrer encore la victoire d'une équipe de foot hier soir à Munich. Je ne sais pas. J'ai des doutes. Même si hier soir, on a pu vibrer pour certains. Hein. Mais dans 1700 ans, il y a 1700 ans, des hommes ont dit Jésus-Christ. Il est venu au milieu de nous il y a 325 ans. Eh bien, cet homme-là, c'était le Fils de Dieu. Certaines personnes disent qu'ils ne réfutent pas l'existence de Dieu, mais ça ne fait pas automatiquement pour eux foi dans sa présence, dans ce que dit la Bible, dans cette certitude que Dieu existe. Beaucoup de personnes croient que Dieu existe, mais elles ne sont pas nécessairement disciples de Jésus-Christ. Oui, on croit en Dieu. On a vécu avec Michel, avec les Michel, Nicole aussi, et Bernadette, un groupe œcuménique très étonnant, où tout à coup, on a vu des membres du groupe œcuménique, catholique, réformé, pas apostolique, hein, je vous rassure, mais qui disaient, ah oui, mais on peut être sauvé sans croire en Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est possible. On ne peut pas imaginer que Dieu va permettre la perdition, l'éloignement pour l'éternité d'hommes, de femmes qui croient en Bouddha, etc. Et nous, on était là. À la sortie, on a pris position, on dit, bah oui, mais s'il y a une seule porte, s'il y a un seul par lequel nous pouvons être sauvés, c'est bien Jésus-Christ. Ah oui, c'est un salut exclusif qui est dépendant d'un acte d'amour du Père qui donne son Fils. Considérer tout à coup que ce Fils-là ne serait pas totalement utile pour être sauvé. Il y en a qui le pensent. J'ai vu, Francine m'a envoyé une vidéo sur, comment ça s'appelle ? C'est Facebook. Hein. Je ne vais jamais sur Facebook. Mais elle m'envoie d'un acteur français qui parle de manière très, très belle sur l'impact des évangiles sur sa vie. C'est un acteur que vous connaissez tous et qui fait un feuilleton des films du cinéma. Et puis, c'est un homme qui a vraiment des qualités de vie, de pensée intéressante. Et il témoigne, il dit, mais je ne connais pas un autre livre, un autre écrit qui puisse à ce point nous pousser à nous remettre en cause, à changer notre vie. Et il parle des évangiles. J'ai oublié son nom du coup. Le Bihan, voilà, Samuel Le Bihan. Mais j'écoutais, alors c'est un petit extrait, il parle de l'importance, Samuel Le Bihan, de la lecture de l'Évangile, mais je ne sais pas, je ne l'entends pas dire s'il croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors peut-être, peut-être pas, mais en tout cas, à la sortie, pour moi, la question c'est toujours, est-ce que la lecture des Évangiles, le Saint-Esprit me dit et dépose en moi cette foi, il est le Fils de Dieu. De Dieu. C'est une révélation. Lorsque Jésus s'adresse au public, là autour de lui, il dit « Venez à moi parce que je connais le Père me connaît et moi je peux vous le faire connaître. » Et c'est une révélation qui ne peut se faire que par l'action du Saint-Esprit. Ce n'est pas ma raison et mon intelligence qui peuvent me suffire à faire de moi d'un incrédule, un croyant en Jésus-Christ. Il y a toujours... je dirais, des arguments. On a entendu une parole ce matin qui disait, voilà, ne te fie pas à ta raison. Hein, la raison n'est pas suffisante pour susciter la foi. Mais le Saint-Esprit est là et veut nous faire rentrer dans cette révélation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ah, ne comptez pas sur la raison seule pour connaître Dieu. Si vous vous enfermez, même avec les évangiles, même avec le désir de les lire, de les trouver beaux, magnifiques, intéressants, etc., c'est merveilleux. Mais s'ils ne conduisent pas, parce que vous acceptez que le Saint-Esprit travaille votre âme et votre esprit à rencontrer Dieu, eh bien, cela ne restera qu'un très très bel écrit et rien de plus. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Le révéler. Je ne sais pas si vous pouvez souligner ce texte-là. Dieu veut se révéler. Il veut te dire, te rencontrer et te montrer. L'Apocalypse. En fait, en anglais, je parle sous le contrôle de Laurence. C'est révélation. Nous, on a Apocalypse. Alors, quand on a le mot Apocalypse qui nous rentre dans l'oreille, tout de suite, on s'imagine des choses terribles, la fin du monde, les flammes, les feux, etc. En fait, en anglais, ce livre-là, c'est révélation. Et c'est bien le centre même de ce livre, ce dernier livre, qui révèle la fin des temps. Mais ce n'est pas simplement la fin des temps que Dieu veut nous révéler. Il veut d'abord nous révéler l'existence et la personne de son Fils. Et le Fils veut nous révéler le Père. Nous sommes, quelque part, au centre d'un combat spirituel où nous sommes acteurs. Et quand je suis sorti de cette salle de cinéma et que j'ai vu cet étal avec médium qui, etc., peut vous faire parler, et on fera l'expérience en fin d'intervention, vous me direz qui vous voulez rencontrer comme mort de votre famille, etc. En fait, c'est l'adversaire qui est là et qui dit « Je veux et je cherche à vous révéler autre chose que Jésus-Christ. » Et toute l'œuvre de l'adversaire, ce n'est jamais que de nous écarter de cette révélation de l'amour du Père. Or, Dieu a accepté que son Fils, celui qui est créateur, parce que parole qui créa l'univers et tout ce qui s'y trouve, il a accepté que ce Fils quitte la gloire de son ciel pour venir au milieu de nous, pour nous révéler le Père, pour nous révéler son amour, sa sollicitude, son envie de nous rencontrer, de tisser du lien, et comme je le disais il y a quelques semaines, de recréer une communion avec nous. Ouais. Alors, on s'aperçoit que cette promesse de Dieu, au verset 28, « Venez à moi, vous toutes qui êtes fatiguées et chargées, je vous donne du repos », c'est un verset qui parle de cette promesse. « Venez et je vous donnerai ». Et dans le verset 28, il est dit « Je vous donnerai du repos ». Dans le texte grec, en fait, c'est « Je vous reposerai ». Ça n'existe pas, ça. Hein. Je crois que c'est un verbe transitif, mais ça ne peut pas être « Je vous reposerai ». Mais c'est ça en grec. C'est vraiment l'esprit du grec. « Je vais vous reposer ». Vous allez vous reposer. Et il y a des moments où on a besoin de se reposer, de retrouver du repos dans sa vie. Et je suis certain que nous avons tous connu cela. Moi, jusqu'à il y a 3 ans, je croyais que j'étais indestructible. Et je pestais que ma femme ne me suive pas dans toutes mes pérégrinations, mes activités. Je dis, mais enfin, on est jeunes. Puis il y a 3 ans, 3-4 ans, mon corps a lâché. Et tout à coup, le moment le plus difficile pour moi, c'était il y a 3-4 ans où je n'avais pas fait de jogging depuis au moins 2-3 ans. Et puis je me suis dit, je vais y aller, faire 5-6 kilomètres et je vais courir, j'ai une boucle comme ça. Puis j'étais entre Gestel et puis je terminais un jogging. Enfin, je croyais que c'était un jogging. Puis à un moment donné, ça m'est arrivé 2-3 fois dans ma vie, j'ai entendu du bruit derrière moi de quelqu'un qui courait. Je me suis dit, tiens, c'est un autre joggeur, mais plus jeune. J'entendais ses pas plus légers, etc. Et puis il m'a dépassé. Et je l'ai regardé me dépasser. Et je me suis rendu compte que c'était un marcheur. Donc si moi je joguais et que lui marchait, ma vitesse de jogging était relativement réduite. Donc j'ai pris conscience de mon affaiblissement. Et puis, du besoin de repos plus considérable. Mais je crois que spirituellement, on peut aussi avoir des moments où on est fatigué. Comment renouveler ses forces? Christ dit, venez, venez à moi. Alors, je ne sais pas comment vous faites. Moi, je suis plutôt d'un naturel têtu et obstiné. Avant que je vienne, il faut que je sois convaincu, que le Seigneur me dise, etc. Pas qu'il me dise une fois, un certain nombre de fois. Puis, quand je finis par craquer, je dis, oui, donc là, peut-être que, Seigneur. Alors, je ne sais pas comment vous êtes peut-être plus obéissant, plus rapide, plus souple, mais n'empêche que tout dépend, pour trouver du repos, la vitesse à laquelle nous sommes capables de venir à Christ. Alors, il ne s'agit pas de venir publiquement, mais toi, face à Dieu, que tu puisses aller vers lui, face à Christ, en disant, oui, je viens à toi parce que j'ai besoin. J'ai besoin. Cette promesse, en fait, elle s'adresse aux disciples, à ceux qui connaissent déjà Jésus, qu'on a entendu parler. Ceux qui sont autour, entre autres, c'est les disciples, les apôtres, ceux qui suivaient Jésus. Donc, on a l'impression que parfois, être chrétien, une fois qu'on est chrétien, qu'on est sauvé, ça y est, tranquille, on attend l'enlèvement. Vous savez, c'est cette promesse qu'un jour, Jésus va revenir, qui va enlever son Église. Moi, quand j'étais jeune, je disais, Seigneur, pas trop tôt quand même. Je suis jeune, je suis chrétien, d'accord, mais je voudrais bien vivre, allez, à 22, 23, 25, 30 ans, ça doit être ça. 40, ça doit être sympa aussi. 50. Bon, là, maintenant que j'arrive à 67, je dis, ouais, là, moi, je suis prêt, hein. Si jamais. Je ne sais pas, c'est le temps et l'heure du Seigneur. Mais est-ce que je peux dire, Seigneur, là, je suis ton disciple et je veux vivre ces trois conditions qui sont liées à ta promesse, à savoir venir, apprendre, pouvoir se donner à Christ totalement. Alors, venez à moi, prenez, recevez et apprenez. Apprenez, apprenez de moi. Alors, est-ce que vous êtes fatigué, chargé? Lorsque les Juifs entendent cela, Jésus prononcer ces mots. En fait, cette notion de venir, c'est un appel que dans le judaïsme, on entend souvent dans l'Ancien Testament. Venir. Venez. Venez à moi, vous qui êtes mon peuple. Venez auprès de votre Dieu. Et puis, ceux qui sont fatigués, chargés, c'est quelque chose qui se trouve, la notion de fatigue et de charge, qui se trouve dès le livre de la Genèse. Vous vous rappelez, lorsque Dieu dit à Adam, après avoir s'être séparé de Dieu, parce que tu as écouté la voix de ta femme, c'est pas ça, hein, la parole qu'il faut remettre en cause, hein. Et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi, c'est avec un dur travail que tu en tireras la nourriture, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Dieu a prononcé son jugement contre Adam en déclarant que celui-ci devra désormais travailler pour trouver sa nourriture et que ce sera quelque chose de pesant. C'est vrai que le péché a pour conséquence qu'au lieu d'une vie légère dans la relation, eh bien, il y aura de la fatigue. Il y aura un temps difficile. Ce mot « venez », nous le retrouvons souvent dans les livres de la Bible, mais dans le Nouveau Testament, vous vous rappelez les appels des différents disciples, lorsque Jésus vient en Marc 1, 17 et qu'il dit à deux pêcheurs, Simon et Pierre-André, « Venez après moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Et puis dans Marc 10, il invite une autre personne à devenir un de ses disciples. Et puis à ce jeune, un notable, en 10, 21, il dit « Vends tout ce que tu as, puis viens et suis-moi. » Puis vous savez comment ça s'est passé, ce jeune j'ai trop de choses à perdre. Et il n'avait pas réalisé ce qu'il avait à gagner en suivant Jésus-Christ. Et peut-être que dans notre vie, c'est aussi un peu la même chose. On considère que finalement, on aurait trop à perdre à suivre Jésus. Et on ne réalise pas ce que nous avons à gagner. Alors, le joug de Jésus. Prendre un joug, c'est vrai que... Au mariage de Sébastien, j'avais demandé à Nicole Richard de me prêter un joug. elle avait un joug chez elle. Non? À la ferme. Voilà, à la ferme. Et donc, elle m'a ramené un joug, un vrai joug de ferme où on mettait les bœufs, etc. Et je l'avais mis, pendant la prédication du mariage, devant l'estrade. Provocateur jusqu'au bout. Mais est-ce que le joug, prendre le joug, c'est quelque chose qu'on peut entendre? Si quelqu'un, et c'est Jésus qui parle, veut venir, toujours le même mot, après moi, c'est-à-dire me suivre, qu'il renonce à soi-même et qu'il prenne sa croix jour, chaque jour et me suive. Quiconque désire devenir un disciple de Jésus devra obligatoirement prendre sa croix. Pas la croix de Jésus, on ne va pas se faire une croix et puis la porter avec nous. Mais sa croix, c'est-à-dire, la croix, c'est le joug qui est lié au service, au fait de lui appartenir. Prendre sa croix et prendre le joug, ce sont donc des synonymes. Et c'est une image qui semble logique en regardant. C'est quelqu'un qui disait, c'est très intéressant, le joug, en fait, ça ressemble à une croix. Vous avez une pièce qui repose sur le cou des animaux et vous avez le timon, en quelque sorte, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui traverse et qui porte le soc qui va labourer la terre. Donc une croix. Pour pouvoir suivre Jésus et porter ce joug, c'est porter cette croix qui est la croix du service. Alors, ces deux actions, ces images, parlent de la même chose. Le joug. Dans la compréhension juive, Dieu parle souvent de cette question du joug. Rappelez-vous, quand le peuple d'Israël était en esclavage, et Dieu dit « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour que vous n'en soyez plus les esclaves. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête haute. » Une manière aussi de montrer que le joug nous incline avec le poids qu'on a sur les épaules quand on est sous l'esclavage, mais Dieu nous libère du joug de l'esclavage. Pour autant, Jésus, je vais vous en mettre un autre. C'était bien la peine de sortir d'Égypte. Et c'est ce que diront le peuple juif à un moment donné. Au moins, on avait un joug, celui de l'esclavage, mais on avait de la viande tous les jours. Ça compte quand même. Et parfois, certains chrétiens disent, quitter le joug de l'esclavage, mais il y avait des bénéfices. C'était pas si mal que ça, finalement. Combien de chrétiens, des disciples de Christ, ont abandonné le Seigneur? Tout simplement parce qu'ils sont retournés, comme le dit l'Écriture, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Hein, c'est une image un peu gore, même pas trop. Mais c'est ça, parce que quelque part, on n'a pas compris que le joug qui nous est proposé, c'est un joug qui est un joug de service. En fait, dans Lévitique 25-55, nous lisons cette autre déclaration, « Car c'est de moi que les Israélites sont les serviteurs. » Ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est-à-dire que le joug dont il est question par Christ, c'est un joug de service. Je ne suis plus esclave, je suis au service de celui auquel j'appartiens. Écoute, dit Dieu à Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un. C'est le Shema, la fameuse prière, le Shema Israël. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ça, c'est une prière que chaque juif répète deux fois par jour. C'est-à-dire que ce joug, c'est un joug de service, pas de servitude. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Est-ce que nous sommes prêts à accepter ce joug? Je vise ceux qui se préparaient éventuellement au baptême. S'il y en a dans la salle, est-ce que je suis prêt à accepter ce joug? Mais les autres, est-ce que nous sommes prêts à servir? Prenez mon joug parce que, un, je suis ton serviteur, deux, il est le souverain de ma vie. C'est ça ce que les Juifs proclament en acceptant cette idée de joug, c'est qu'il est le souverain. Aujourd'hui, la question, est-ce que j'accepte que Jésus-Christ soit mon Seigneur? Sauveur, oui, j'accepte. Il m'a libéré de mes péchés, je suis sauvé pour l'éternité. Mais est-ce qu'il est mon sauveur et est-ce qu'il peut devenir aussi mon Seigneur? Et puis, la troisième chose, c'est est-ce qu'il y a en moi la volonté de le servir, de lui être utile? Prenez mon joug sur vous. Alors, j'aime bien ce mot qu'il y a au tout début. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. En fait, dans le texte grec, il est dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et le verset 30, c'est, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Oh ben alors, si c'est léger, Seigneur, volontiers, hein? Ouais. Mais dans le texte grec, j'étais revérifié, le mot qui est donné pour aisé, c'est le mot utile, car mon joug est utile. Ah, donc je reconnais que tu es mon Seigneur, et donc j'accepte d'être à ton service, tu es mon souverain, tu diriges ma vie, et le joug qui est sur moi est un joug utile. Oui, mais alors, Seigneur, il est utile à qui? Comment? Je n'ai pas entendu, Seigneur. Il est utile à toi? À moi? Aux autres et à ce monde? Prenez mon joug. Acceptez que Christ soit mon Seigneur, je vais vous dire, c'est d'abord utile pour moi. Parce que ça me positionne dans une attitude de dépendance par rapport à celui qui a l'autorité. Et j'accepte enfin que Dieu ait toute autorité sur ma vie. Vous vous rappelez cette intervention que je faisais il y a quelques mois où je disais que une spécialiste en recherche des sciences de l'éducation disait que l'autorité, ce n'est pas quelqu'un qui l'a et qui l'a fait reposer sur ses subordonnés, ce sont les subordonnés qui reconnaissent l'autorité que quelqu'un a parce qu'il ou elle a les compétences. Oui, parce que même les femmes peuvent avoir de l'autorité. Je le dis parce que pour certains hommes, c'est peut-être pas évident. Qu'un homme et une femme aient une autorité sur moi. Parce qu'il ou elle a les compétences, les qualités, les compétences, tout ce qui peut lui permettre de me conduire dans ce qu'il y a de meilleur dans mon action et mon service. C'est vrai au travail, je suppose que le chef de service qui est au-dessus, le directeur qui peut être dans mon établissement, je lui reconnais de l'autorité. Et en fait, un homme ou une femme perd son autorité quand les subordonnés cessent de la lui accorder. Donc ça part donc bien, l'autorité, ce n'est pas le pouvoir, c'est très différent. Et en fait, dans cette question de « venez à moi », ce dernier verset, « car mon joug est aisé », il est utile si tu acceptes de me reconnaître comme ton Seigneur. Il sera utile pour toi et pour les autres, parce que tu te mettras en position de dépendance qui est justifiée. Je suis celui qui est mort pour toi, je suis celui qui t'a sauvé, mais je suis aussi celui qui veut devenir ton Seigneur. Israël avait compris cela. Dieu est notre souverain. L'Église ne dira pas « Dieu est mon souverain », mais « Jésus-Christ est mon Seigneur ». Et cela part de ce principe que je lui accorde l'autorité sur moi. Christ ne prendra pas autorité sur moi. Il attendra que je la lui accorde parce que je reconnais son amour. Je dirais aussi, je lui reconnais le droit. Souvenez-vous, cette discussion que j'ai eue dans la rue avec un voisin qui me disait, mais comment est-ce que je peux pardonner? Pardonner, entre autres, à mon père. Mon père qui a eu des comportements, etc. La question du pardon, c'est une question juridique, une question de droit. Pas du tout une question affective et psychologique. Non, c'est une question. Je remets une dette et je te signe un papier comme quoi je t'ai remis ta dette. Tu ne me dois plus rien. C'est ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Donc, si Jésus-Christ a fait cela vis-à-vis de moi, il a le droit que je le reconnaisse comme Seigneur. Et à ce moment-là, j'accepte ce joug qui n'est pas un joug de servitude, mais un joug de service. Tous, autant que nous sommes dans cette salle, Dieu veut nous sauver et je souhaite et j'espère que chacun a pu recevoir ce salut qui est proposé en Jésus-Christ. Mais tous dans cette salle, nous sommes appelés aussi à le servir pour que nous soyons d'abord dans une position juste et cohérente par rapport à lui, mais aussi pour que le monde puisse continuer à être gagné à ce message de salut. Cet acteur qui parlait sur les réseaux sociaux de la place de l'évangile, comment cet évangile peut être absolument fantastique, il dit « Je ne connais rien d'autre qui puisse transformer un homme plus que ce texte-là. » Après, je ne sais pas quelle est sa relation à Christ, mais je dirais, c'est une proclamation, déjà. Est-ce que, si j'accepte que le joug de Christ soit sur mes épaules, j'accepte aussi d'apprendre à me soumettre à lui et à le servir. Venir, prendre, apprendre. Trois mots. Alors, qu'est-ce que nous apprenons? Ben, on apprend que d'abord, je suis doux et humble de cœur. Ça veut dire que Christ ne sera pas dans une position, une attitude de domination. Il me dit, ben, puisque tu veux entrer dans mon royaume, accepte que j'ai autorité et que je dirige ta vie. Non, non, il est doux et humble de cœur. Il ne fera rien par force. Il attendra que tu lui accordes cette autorité dans ton existence. Lorsque Jésus affirme qu'il se fera connaître à qui il veut bien se révéler, il faut savoir que cette révélation ne se produit pas par hasard. Ce n'est pas non plus une question de favoritisme où Dieu dirait « Oh, Lindsay, oh, qu'est-ce qu'elle est bien !» Oh, elle est formidable. Donc, elle, je vais la choisir. Mais Francine, bon, c'est juste. Hein, va falloir faire des efforts. C'est un peu comme le carnet de notes, vous savez, à notre époque. Non, non, c'est pas une question de favoritisme. Dieu nous regarde tous avec la même bienveillance. Et il va se révéler, et il est dit au verset 25, au tout petit, c'est ce qu'il y a juste avant. Il s'agit d'être nous-mêmes humbles et petits devant lui, pour pouvoir le recevoir. Qu'allons-nous faire? Une fois que vous franchirez ces portes, vous allez peut-être oublier ce passage et vous dire, ouais, c'était pas mal. Je ne me suis pas endormi, ou pas tout à fait. Mais est-ce que cette parole-là peut devenir une parole qui me parle et où le Saint-Esprit me dise, il y a des choses pour toi là maintenant. Est-ce que tu veux venir? Viens à moi. C'est le premier pas. Viens à moi et après. Seigneur, nous voulons te remercier parce que ta parole est vivante. Et même si des hommes nous parlent dans les réseaux sociaux de l'importance et de la puissance qu'il y a dans tes évangiles, nous savons que tu es là pour nous révéler. Nous révéler le Père. Nous révéler le Fils. Et nous permettre que l'Esprit Saint ait toute liberté d'agir dans nos cœurs et dans nos vies. Donne-nous, Seigneur, de ne pas quitter ce lieu ou ce temps sans nous laisser interpeller par toi et te donner une réponse. Parce qu'il est important de nous laisser interpeller par toi. Maintenant, Seigneur, maintenant, tu es mon Sauveur et tu es mon Seigneur. Et je t'accorde toute autorité sur ma vie. Amen.